Chapitre 5. L'équipe médicale qu'employait Molly occupait deux niveaux d'un bâtiraque anonyme près du centre historique de Baltimore. L'immeuble était modulaire, à l'instar de quelques versions géantes de l'hôtel Echo, chaque cercueil ayant 40 mètres de long. Kaze retrouva Molly alors qu'elle émergeait de l'une de ses cellules qui portait le sigle contourné d'un certain Gerald Menton, dentiste. Elle boitait. « Il m'a prévenu. Si je balance mon pied dans quelque chose, il se détache. »« Je suis tombé sur un de tes potes, un moderne. »«
Ah ouais, lequel ?»«
Lupus Yonderboy. »« L'avait un message. » Il lui tendit un mouchoir en papier, avec « muet d'hiver » inscrit au feutre rouge en capitale nette de son écriture laborieuse. Il a dit, mais elle avait déjà levé la main, pour lui intimer le silence. « Allons-nous bouffer un crabe, lui dit-elle. » Après le déjeuner à Baltimore, Molly, disséquant son crabe avec une aisance inquiétante, ils regagnèrent New York en métro. Kaze avait appris à ne pas poser de questions. Elle ne lui amenait que le signe de main indiquant le silence. Molly semblait avoir des problèmes avec sa jambe et parlait peu. Une noire, mince, natte et antique résistance tressée dans les cheveux, leur ouvrit la porte du finnois, puis les guida au milieu du tunnel de détritus. Kaze avait l'impression que l'empilement avait grossi durant leur absence, ou bien qu'il s'était subtilement modifié, percolant sous la pression du temps, flocons invisibles et silencieux compactés, pour former un mortier, une essence cristalline de technologie au rebut qui fleurissait en secret dans les décharges de la Conurbe. Derrière sa couverture de l'armée, le Finnois attendait, installé à la table blanche. Molly se mit à lui parler par signes rapides, puis sortit un bout de papier sur lequel elle griffonna avant de le passer au Finnois. Il le prit entre le pouce et l'index, le maintenant loin du corps comme s'il menaçait d'exploser. Il fit un signe dont Kaze ignorait le sens, mais qui véhiculait quelque chose comme un mélange d'impatience et de résignation morose. Il se leva, essuyant des miettes sur le devant de sa veste en tweed usé. Un pot de hareng sort était posé sur la table près d'un emballage déchiré de biscuits et d'un cendrier de fer blanc rempli de mégots de partagas. « Attendez, dit le Finnois, et il quitta la pièce. Molly prit sa place, extruda la lame de son index droit et embrocha une tranche de hareng grisâtre. Kaze déambula dans la pièce, caressant du doigt au passage le scanner fixé sur les pylônes. 10 minutes plus tard, le Finnois revenait, toutes dents dehors, en un large sourire jaune. Il opina du bonnet, leva le pouce à l'intention de Molly et fit signe à Kaze de l'aider à obturer la porte. Quand Kaze eut lissé la bordure en velcro, le Finnois sortit de sa poche une petite console plate et pianota dessus une séquence complexe. « Toi, mon chou, dit-il à Molly, en plaquant à nouveau sa console, tu l'as eu. Pas à chier, je peux le sentir. Tu veux bien me dire où tu l'as eu ?»«
Yonderboy, dit Molly, repoussant le pot de hareng et les biscuits. J'ai passé un marché avec Larry en prime. »«
Malin, dit le Finnois. C'est une IA. »«
Et là, pas si vite, dit Kaze. »«
Berne, poursuivit le Finnois, ignorant l'interruption. Berne. » Elle a la nationalité suisse, restreinte, sous l'égide de l'équivalent de notre loi de 53. Construite pour la Tessier H-Pool SA, il possède l'unité centrale et le logiciel d'origine.
Kaze s'interposa délibérément.
On m'explique ce qu'il y a à Berne, d'accord?
Muet d'hiver est le code de reconnaissance pour une IA. J'ai récupéré les matricules du registre de Turing, intelligence artificielle.
« Impec, dit Molly. Mais tout ça nous mène où ?»«
Si Yonderboy dit vrai, dit le Finnois, cette IA est derrière Armitage. »«
J'ai payé Larry pour que les modernes aillent un peu fourrer leur nez dans les affaires d'Armitage, » expliqua Molly en se tournant vers Kaze. « Ils ont des réseaux de communication assez tordus. »«
Le marché était qu'ils avaient leur fric s'ils répondaient à cette seule question. Qui manipule Armitage ?»
« Et tu crois que c'est une IA ?»
Ces trucs n'ont pas le droit d'avoir la moindre autonomie. Ce doit être la firme mère, cette Tesla.
Tessier H. Poulessa, dit le Finnois. Et à leur sujet, j'ai une petite histoire pour vous deux. Ça vous intéresse ?
Il s'assit et se pencha en avant.
Le Finnois, remarqua Molly, il adore les histoires.
Celle-là, je l'ai encore racontée à personne, commença le Finnois.
Le Finnois était un rosseleur, un trafiquant en marchandises volées, essentiellement du logiciel. En cours d'affaires, il lui arrivait d'entrer en contact avec des collègues, certains branchés sur des articles plus traditionnels, métaux précieux, timbres, monnaies rares, pierres précieuses, bijoux, fourrures, tableaux et autres œuvres d'art. L'histoire qu'il conta à Keyes et Molly commençait par celle d'un autre homme, un homme qu'il appela Smith. Smith était également un receleur, mais dans les périodes fastes, il faisait surface sous les apparences d'un négociant en art. C'était le premier individu à sa connaissance à être devenu siliconé. L'expression avait pour Keyes un parfum vieillot, et les micro-gisticiels qu'il achetait étaient essentiellement des programmes d'histoire de l'art et des barèmes de vente dans les galeries. Avec une demi-douzaine de puces embrochées sur son nouveau connecteur, la connaissance du marché de l'art qu'avait Smith était formidable, du moins en comparaison avec ses collègues. Mais un jour, Smith était venu voir le Finnois pour lui demander de l'aide. Une requête confraternelle entre hommes d'affaires. Il voulait une entrée sur le clan Tessier H. Poul, disait-il, et il fallait y parvenir d'une manière qui garantit l'impossibilité pour le sujet de retrouver l'origine de la fuite. Cela pourrait se faire, avait acquiescé le Finnois, mais une explication était absolument nécessaire.
Ça sentait, dit-il à Keyes, ça sentait le fric. Et Smith se montrait très prudent, presque trop.
Smith, apparut-il, avait eu un fournisseur du nom de Jimmy. Jimmy était entre autres un cambrioleur, tout juste rentré d'une année en orbite haute, et qui avait ramené pas mal de choses par le puits de gravité. Le truc le plus étonnant qu'il était parvenu à étouffer lors de sa virée dans l'archipel était une tête, un buste ouvragé de manière fort complexe, cloisonné sur platine, incrusté de perles de culture et de lapis-lazuli. Avec un soupir, Smith avait reposé son microscope de poche et conseillé à Jimmy de fondre l'objet. C'était une pièce contemporaine, pas une antiquité, et donc sans aucune valeur pour le collectionneur. Jimmy avait ri. L'objet était un terminal d'ordinateur, avait-il expliqué. Il pouvait parler, et pas à l'aide d'une bête voix synthétique, mais grâce à un superbe arrangement de rouages et de tuyaux d'orgue miniature. C'était un objet totalement baroque, un truc dingue à construire, une création perverse, quand les puces de voix synthétiques coûtait trois fois rien. C'était une curiosité. Smith connecta la tête à son ordinateur, écouta, tandis que la voix inhumaine et mélodieuse débitait d'un ton flûté les chiffres de l'impôt de l'année précédente. La clientèle de Smith comprenait un milliardaire de Tokyo dont la passion pour les automates mécaniques frôlait le fétichisme. Smith haussa les épaules, présentant à Jimmy ses paumes levées en un geste vieux comme le monde piété. « Il pourrait toujours essayer, lui dit-il, mais il doutait de parvenir à en tirer grand-chose. » Jimmy partit en laissant la tête. Aussitôt, Smith examina celle-ci avec le plus grand soin et y découvrit des marques indubitables. Au bout du compte, il fut en mesure de la relier à une improbable collaboration entre deux artisans zurichois, un spécialiste en métaux à Paris, un joaillier néerlandais et un concepteur de puces californien. L'objet avait été commandité, découvrit-il, par Tessier H. Poul S.A. Smith se mit à lancer quelques ballons d'essai auprès du collectionneur nippon, laissant croire qu'il était sur la piste d'un gros coup. Là-dessus, il eut un visiteur impromptu, un qui s'était coulé au travers du labyrinthe complexe des systèmes de sécurité de Smith, comme s'il n'existait pas. Un petit bonhomme, un japonais,
débordant de politesse qui portait tous les signes d'un assassin ninja cultivé en éprouvette. Smith resta assis, parfaitement immobile, fixant les yeux calmes et bruns de la mort qui le regardait de l'autre côté d'une table polie en bois de rose vietnamien. Avec douceur, presque avec un geste d'excuse, le tueur cloné expliqua qu'il était de son devoir de récupérer et de restituer une certaine œuvre d'art, un mécanisme de grande beauté, qui avait été subtilisé de la maison de son maître. Et il était venu à son attention, poursuivit le ninja, que Smith pouvait être au courant de la destinée du susdit objet. Smith dit au vieil homme qu'il n'avait aucune intention de mourir, et il lui présenta la tête. « Et combien ?» demanda alors le visiteur. « Est-ce comptiez-vous retirer de la vente de cet objet ?» Smith donna un chiffre bien inférieur à celui qu'il avait eu l'intention de fixer. Le ninja sortit une carte à mémoire et vira à Smith ce montant depuis un compte numéroté en Suisse. « Et qui, demanda l'homme, vous a apporté cette pièce ?» Smith le lui dit. À quelques jours de là, Smith apprit la mort de Jimmy. « Et c'est là que j'interviens, poursuivit le Finnois. Smith savait que je trafiquais un max avec la faune de Memory Lane. Et il n'y a que là qu'on peut se dégoter une sonde peinarde que jamais personne ne risquera de repérer. J'ai engagé un cow-boy. En tant qu'intermédiaire, je prenais un pourcentage. Smith, de son côté, était prudent. Il venait d'avoir une expérience des plus bizarres, et même s'il s'en était sorti, il y avait quand même quelque chose qui ne collait pas. Qui avait payé? Qui avait tiré le fric de ce compte en Suisse? Le Yakuza? Impensable. Ils avaient un code fort rigide pour des situations de cet ordre. Et par ailleurs, ils tuaient régulièrement l'intermédiaire de toute façon. Était-ce un truc bidon? Smith ne le croyait pas. Les plans bidons avaient une vibration, quelque chose qu'on pouvait sentir de loin. Bon, j'envoie mon cow-boy fouiner dans les morgues de bases d'infos, jusqu'à temps qu'on retrouve la Tessier Ashpool dans un litige. L'affaire n'était pas grand-chose, mais on tenait le cabinet juridique. Il lui suffit alors de briser la glace de l'avocat pour qu'on obtienne l'adresse de la famille. Pour le bien que ça nous a fait, Kaise haussa les épaules. « Zone libre, dit le Finnois, le fuseau. » Il s'avère qu'il possède pratiquement tout le truc. Mais le plus intéressant, c'est le panorama qui est apparu après que le cow-boy eut lancé une sonde, tout ce qu'il y a de régulier, dans les morgues info, et compilé un topo de la situation. Organisation de la famille, structure de la société, montage financier. Théoriquement, n'importe qui peut acheter des parts d'une SA, sauf qu'on n'a pas vu une seule action de la Tessier Ashpool SA négociée sur le marché libre depuis plus d'un siècle. Sur aucune place, autant que je sache. Bref, nous sommes en train de contempler un parfait exemple de famille en orbite haute de première génération, bien peinarde, bien excentrique et qui tourne comme une multinationale. Gros paquet de fric, extrême discrétion côté médias, clonage en masse. Les lois en orbite sont considérablement plus souples, question ingénierie générique, DAC, et il devient difficile de repérer quelle génération ou quelle combinaison de générations mène la danse à un moment donné. « Comment ça ?» demanda Molly. « Ils ont leur propre installation cryogénique. Même selon la loi orbitale, vous êtes légalement mort durant la période de congélation. M'ont quand même tout l'air d'avoir fait l'échange. Bien que personne n'ait vu le père fondateur d'une trentaine d'années. Quant à la nana, elle est morte dans quelque accident de laboratoire. Et alors, que s'est-il passé avec ton receleur ?
Rien.
Le Finnois fronça les sourcils. Il a lâché. On a eu un aperçu de ce fantastique écheveau de pouvoir que représentent les avocats de la Tessier Ashpool. Un point, c'est tout. Jimmy a dû pénétrer dans Lumiérante, lever la tête, et la Tessier Ashpool lui a envoyé le ninja aux trousses. Smith a décidé de laisser tomber. Il n'a peut-être pas eu tort. Il regarda Molly. La villa Lumiérante, à la pointe du fuseau, strictement privé.
« Tu crois qu'il possède également ce ninja, le finnois ?» demanda Molly.
Smith le croyait.
« Coûteux, observa-t-elle. Me demande bien ce qui a pu arriver à ce petit ninja, le finnois.
L'on sans doute mis sous glace, prêt à le décongeler si besoin n'est.
« D'accord, » dit Case. « On sait maintenant qu'Armitage est financé par une IA baptisée Muet d'hiver. Où cela nous mène-t-il ?»«
Nulle part encore, » dit Molly. « Mais t'as quand même gagné maintenant un petit supplément. »
Elle tira de sa poche un bout de papier plié et le lui tendit.
Il l'ouvrit. « Coordonnées de grille et code d'entrée. »«
Qui est-ce ?»«
Armitage. Certaines de ses bases de données, rachetées aux modernes. » Un marché séparé.
Où est-il ?
À Londres, dit Case.
Craque-le, elle rit, et garde ta prise en guise de monnaie.
Case attendait un omnibus trans-AMAB sur un quai bondé. Molly avait regagné le loft depuis plusieurs heures. Le construct, de très plat, dans son sac vert, et depuis, Case n'avait cessé de boire. Il était dérangeant d'imaginer le tréplat sous la forme d'un construct, une cartouche de mémoire morte câblée, qui répliquait les talents d'un mort, ses obsessions, ses réactions reflexes. L'omnibus entra dans la station avec fracas, longeant le ruban noir du rail d'induction dans un nuage de fine poussière arraché aux fissures de la voûte du tunnel. Case monta dans la voiture par la porte la plus proche et observa les autres passagers durant le trajet. Un couple de scientistes chrétiens à l'air prédateur se dirigeait vers un trio de jeunes techs qui portaient au poignet des hologrammes de vagins idéalisés, scintillement rose moite sous la lumière dure. Les techs humectèrent leurs lèvres impeccables, nerveuses, lorgnant les scientistes chrétiens dessous leurs paupières métalliques baissées. Les filles ressemblaient à de grands herbivores exotiques, élancés, ondulantes avec une grâce inconsciente au rythme des mouvements du train. Leurs talons hauts, comme des sabots polis sur le métal gris du plancher de la voiture. Avant qu'elle n'ait pu détaler pour fuir les missionnaires, le train pénétrait dans la station où descendait Case. Il sortit et aperçut un cigare holographique blanc suspendu contre le mur de la station. Zone libre, palpitant dessous en capitale contournée, qui imitait les caractères japonais imprimés. Il traversa la foule pour aller se placer au-dessous et l'étudier. « Pourquoi attendre ?» clignotait le signe. Une aiguille blanche émoussée, ceinturée et hérissée de grilles, de radiateurs, de docks, de dômes. Il avait vu la pub, et d'autres analogues, des milliers de fois. Elle ne l'avait jamais attiré. Avec sa console, il pouvait joindre les banques de zone libre, aussi facilement qu'Atlanta. Voyager était un truc de viandard, mais voilà qu'il remarqua le sceau de la taille d'une petite pièce de monnaie tissée dans le coin inférieur gauche de la trame lumineuse de la pub. Tessier Ashpool. Il regagna à pied le loft, perdu dans ses souvenirs du tréplat. Il avait passé le plus clair de l'été de ses 19 ans au Gentleman Loser à descendre des bières de luxe et observer les cow-boys. À l'époque, il n'avait pas encore touché une console, mais il savait déjà ce qu'il voulait. Il y avait au moins 20 autres jeunes loups qui hantaient le loser cet été-là, chacun prêt à faire le mignon pour quelques cow-boys. Pas d'autre moyen d'apprendre. Tous avaient entendu parler de Paulet, le blaireau des faubourgs d'Atlanta, qui avait survécu à la mort cérébrale derrière la glace noire. Le téléphone arabe, rapide au niveau de la rue, et le seul à fonctionner, n'avait pas grand-chose à dire sur Paulet, sinon qu'il avait réalisé l'impossible. « Un gros truc », avait raconté à Case un autre aspirant, contre une bière, mais qui sait quoi. « J'ai entendu dire, peut-être un fichier de paye brésilien. » En attendant, le mec était bien mort, encéphalo raide plat. Case avait regardé à l'autre bout de la salle bondée un type baraqué en manches courtes, le teint un rien plombé. « Mec !» devait lui confier le tréplat, des mois plus tard à Miami. « Je suis comme ces putains de gros lézards, tu sais. avaient deux cervelles, une dans la tête, l'autre dans le croupion, pour leur faire tricoter des gambettes. Là suffit de toucher à ce truc noir, et ce vieux cerveau de queue s'est mis à tourner tout seul. L'élite de cow-boys qui fréquentait le Loser avait tiré Paulet d'une espèce d'étrange anxiété de groupe, presque une superstition. McCoy Paulet, Lazare du cyberspace. Et c'est son cœur qui l'avait lâché en fin de compte. Son cœur de surplus russe, implanté dans un camp de prisonniers durant la guerre. Il avait refusé de faire remplacer la chose, prétendant qu'il avait besoin de son battement particulier pour conserver sa notion de l'écoulement du temps. Case tripota le morceau de papier que lui avait donné Molly et grimpa les marches. Molly ronflait sur le tapis de mousse. Un plâtre transparent lui couvrait la jambe, du genou à quelques millimètres sous l'aine. La peau, sous le micropore rigide marqué d'hématomes noirs bordés d'un jaune malsain. 8 dermes, chacun d'une taille et d'une couleur différente, couraient, alignement parfait, au creux de son avant-bras gauche. Une unité transdermique à caille était posée à côté d'elle, fin câble rouge connecté au trode fixé sous le plâtre. Il alluma le tenseur à côté de l'Osaka. Le cercle de lumière nette tomba directement sur le construct du tréplat. Il glissa un peu de glace, connecta le construct et se brancha. Exactement la sensation d'avoir quelqu'un qui lisait par-dessus votre épaule. Il toussa. 10 ? McCoy, c'est toi, mec ? Il avait la gorge serrée. Hé, frangin, dit une voix venue de nulle part. C'est Case, mec, tu te souviens ? Miami, le mignon, rapide à apprendre. Quel est ton dernier souvenir avant que je te parle, 10 ? Rien. Ne quitte pas. Il déconnecta le construct. La présence avait disparu. Reconnexion. 10 ? Qui suis-je ? Tu m'as raccroché, Toto. Qui es-tu, bordel ? Case, ton pote, ton associé. Qu'est-ce qui se passe, mec ?
Bonne question.
Tu te souviens que t'étais là il y a une seconde ?
Non.
Tu sais comment fonctionne une matrice de personnalité à mémoire morte ?
Bien sûr, frangin. C'est un construct câblé.
Alors, je le branche sur la banque que j'utilise, et je peux lui fournir une mémoire séquentielle en temps réel.
Je suppose, oui, dit le construct.
Ok, 10. Tu es bel et bien un construct à mémoire morte.
Pigé ?
Si tu le dis, répondit le construct. Qui es-tu ?
Case.
Miami, dit la voix, le mignon, rapide à apprendre.
Exact.
Et pour commencer, 10, toi et moi, on va se faire une virée sur la grille de Londres pour accéder à quelques données. T'es partant ?
Tu vas peut-être me dire que j'ai le choix, Coco ?